Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless pour vous présenter cette première émission en français de l'année 2021. Au cours de l'heure qu'on va passer ensemble, on va parler de cinéma. D'abord avec le réalisateur Édouard Bergeon qui va nous présenter son superbe film Au nom de la Terre. Et puis on va aussi parler du film Incendie, réalisé lui par Denis Villeneuve et que vous pouvez regarder gratuitement sur SBS On Demand. Le samedi, c'est aussi le jour où on revient sur un événement historique. Aujourd'hui, on va remonter plus de 500 ans en arrière et évoquer la prise de la ville de Grenade par les Espagnols en 1492, une victoire qui marque aussi la fin de la présence musulmane dans la péninsule ibérique. Mais avant de retourner dans le passé, intéressons-nous au présent, c'est l'heure du journal. Les principales actualités de ce samedi 2 janvier 2021. De nouveaux cas de coronavirus détectés dans le Victoria mais également à Sydney. À Sydney où le port du masque va devenir obligatoire à partir de minuit. Aux États-Unis, la fin de règne pénible de Donald Trump. Il vient d'être désavoué par le Sénat, pourtant à majorité républicaine. Et puis aujourd'hui, c'est l'ouverture du mercato d'hiver parmi les joueurs qui suscitent la convoitise, le sextuple ballon d'or Lionel Messi. Et 7 nouveaux cas de transmission locale ont été détectés à Sydney, liés au cluster de Croydon, au cours des 24 dernières heures. En conséquence, la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, vient d'annoncer que le port du masque allait être obligatoire, sauf pour les moins de 12 ans, à partir de minuit ce soir, dans tout le Grand Sydney, et uniquement dans certains lieux clos. On l'écoute.
So masks from midnight tonight will now be compulsory in certain indoor settings, and we want to be very clear about this. We'll be making sure that compliance or enforcement occurs from Monday. So we won't fine you until Monday. The fine will be $200 for not wearing the mask in these settings. But if you're going shopping or in shopping centres, you have to wear a mask. If you're catching public transport, you have to wear a mask. If you're attending an indoor entertainment venue like a cinema, you have to wear a mask. Places of worship, hair and beauty salons, in gaming areas of establishments, and staff at hospitality venues.
Et dans l'état du Victoria aussi, 29 nouveaux cas détectés aujourd'hui, parmi lesquels 10 cas de transmission locale. L'État du Victoria, qui vient de fermer sa frontière à toute la Nouvelle-Galles du Sud, a vu jeudi soir, avant l'heure limite, des milliers de Victoriens rentrer chez eux pour éviter d'être placés en quarantaine. Ces cas qui viennent d'être détectés sont directement liés au cluster apparu ces dernières semaines à Sydney. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé, Martin Foley.
We've been quite consistent for some time now, for 2 weeks in fact, that the deteriorating position in New South Wales was of significant concern and that the public health advice was likely to change very quickly in a rapidly changing public health environment. So we make no apologies for closing the border. It was based on the public health advice.
Et alors que des milliers de gens à travers le monde ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre le Covid, on y reviendra un peu plus tard dans ce journal, les Australiens, eux, vont devoir attendre jusqu'au mois de mars. Les autorités sanitaires ici expliquent que déployer le vaccin en Australie trop vite pourrait présenter certains dangers. Paul Kelly, qui est médecin-chef de l'Australie, rappelle qu'il faut laisser le temps à la TGA, l'agence australienne du médicament, tout le temps nécessaire pour analyser les données.
I think people need to realise it's not a magic bullet immediately. When the vaccines are found to be safe and effective, they will be rolled out in Australia. That won't change everything else we're doing in relation to the pandemic immediately. We're aiming for as many people as possible that can get it, starting though with those high priority groups, our healthcare workers, our aged care workers, our aged people who we know are the most vulnerable.
Mais cet argument ne convainc pas le leader de l'opposition, Anthony Albanese. Il pense que la prochaine réunion du cabinet national consacrée au coronavirus, qui est prévue pour l'instant le 5 février prochain, devrait être avancée.
In the meantime, the TGA is expected to approve the Pfizer vaccine in January. The only person, people who are undermining faith in that system is those who say that once it's approved, we still have to wait potentially until March. Surely, the ongoing breakouts show that once the TGA approves a rollout, we should be rolling it out as soon as possible.
En Europe, le Brexit, c'est désormais une réalité depuis hier, pour être précis. Il semble néanmoins que la réapparition des frontières n'a pas provoqué pour l'instant de bouchons dans l'Eurotunnel. Et en Grande-Bretagne, l'une des premières conséquences de ce Brexit, c'est la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Le Premier ministre Boris Johnson s'y était engagé, c'est désormais chose faite. À Londres, on va faire le point avec Patricia Lecomte pour Radio France Internationale.
Tout juste sorti de l'Union européenne, le gouvernement britannique prend la décision de lever la taxe de 5% minimum sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Considérés comme des produits essentiels par l'exécutif, ce dernier s'était engagé à supprimer la taxe sur les produits hygiéniques féminins. Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, avait dès le mois de mars annoncé la mesure dans son budget. Selon le calcul du ministère des Finances, la suppression de la TVA permettra aux femmes d'économiser environ 40 euros au cours de leur vie. Depuis des années, des associations féministes dénoncent une taxe sexiste. Le sujet est pris au sérieux au Royaume-Uni où les écoles et les universités distribuent gratuitement des protections aux étudiantes. En annonçant cette décision, Rishi Sunak s'est déclaré fier d'avoir pu répondre aux attentes des femmes et s'est également empressé de souligner que si cette mesure est devenue possible, c'est grâce à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une façon de tacler l'opposition qui critique le Brexit.
Et aux États-Unis, la fin de règne pénible de Donald Trump, il quittera la Maison-Blanche dans un peu moins de 3 semaines et il a subi hier un véritable camouflet puisque le Sénat, pourtant à majorité républicaine, a voté en faveur du budget de la défense et ce alors que Donald Trump y avait opposé quelques jours plus tôt son veto. C'est la première fois en 4 ans de présidence que les sénateurs républicains refusent de suivre ces directives. On va écouter les explications de Heike Schmidt pour RFI.
À 20 jours de la fin de son mandat, Donald Trump est bien seul. Jamais, depuis son investiture en janvier 2017, le Congrès n'avait contourné un veto présidentiel. Après la Chambre des représentants lundi, c'est donc le Sénat qui humilie le locataire de la Maison-Blanche. Avec une majorité des 2/3, les sénateurs ont adopté le budget de 740 milliards de dollars pour la défense. Le président a donc été lâché par son propre camp. Le texte, qui prévoit notamment une hausse de 3% des salaires des soldats, est donc définitivement adopté. Le Congrès avait déjà approuvé ce même budget début décembre, mais à la veille de Noël, le président, à la surprise générale, avait annoncé qu'il mettait son veto parce qu'il jugeait le texte trop favorable à la Chine, provoquant la consternation jusque dans son propre camp. Le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a tenu tête au président sortant. Avec cet argument, je cite, « Il faut s'assurer que nous restions dans la course face à nos concurrents comme la Russie et la Chine. »
En Israël, la campagne de vaccination contre le Covid-19 avance extrêmement vite. Déjà 1 million de personnes ont été vaccinées, ça représente 10% de la population du pays. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou explique ce succès par la qualité du système de santé de l'État hébreu. Sami Boukhelifa pour RFI.
Rien ne semble pouvoir arrêter cette course effrénée à la vaccination en Israël, si ce n'est une contrainte technique. Le vaccin Pfizer-BioNTech, administré jusque-là, nécessite 2 injections à 3 semaines d'intervalle pour être pleinement efficace. Alors, le ministère de la Santé israélien l'annonce déjà. Les équipes médicales pourraient bientôt suspendre les premières vaccinations pour se concentrer uniquement sur les rappels. Mais cette baisse de cadence ne durera pas car l'objectif de l'État hébreu est fixé. Plus de 2 millions d'Israéliens devront être vaccinés d'ici la fin du du mois, soit le quart de la population. En parallèle, le pays vit toujours au rythme du confinement général, le troisième depuis le début de l'épidémie. Ce nouveau coup de frein fait beaucoup de mal à l'économie. Afin d'endiguer cette situation, le Premier ministre israélien souhaite à terme la vaccination de la totalité de la population. Le but, rouvrir les commerces et les frontières du pays. En pleine campagne électorale pour les prochaines législatives, Benjamin Netanyahou compte bien mettre à son crédit cette sortie de crise. Sami Bourkhlifa, Jérusalem, RFI.
Après le traditionnel discours de Noël de la reine Elisabeth II, c'est hier le commandant Cousteau anglais, le Sir David Attenborough, qui a pris la parole hier. Le présentateur télé de 94 ans a depuis son domicile londonien appelé le monde à mettre en œuvre des changements positifs pour la planète. Et même si l'année 2020 a été particulièrement difficile, elle a prouvé d'après lui qu'en temps de crise, l'humanité est capable de travailler ensemble pour faire face à l'adversité. On l'écoute.
Today, we are experiencing environmental change as never before. And the need to take action has never been more urgent. This year, the world will gather in Glasgow for the United Nations Climate Change Conference. It's a crucial moment in our history.
L'année 2021 sera-t-elle celle de la disparition du travail des enfants à travers le monde? C'est en tout cas la promesse des Nations Unies qui promet de faire davantage d'efforts pour arriver à cet objectif. Néanmoins, des progrès significatifs ont déjà été accomplis au cours des 20 dernières années puisque le nombre d'enfants qui travaillent à travers le monde est passé de 246 millions en 2000 à 152 millions aujourd'hui. L'organisation Human Rights Watch rappelle qu'en la matière, la responsabilité des gouvernements est immense.
The choices that governments make now are crucial. They can lessen the worst impacts of the crisis on children in the short term and set children up for success in the long term. A critical step that governments can take is to get children back into school as soon as possible once COVID-19 is under control.
Et un mot de sport maintenant, et plus précisément de football, et non pas de soccer, le vrai football. Le mercato d'hiver vient officiellement d'ouvrir et il promet cette année d'être particulièrement suivi puisque de nombreux joueurs de très haut niveau arrivent bientôt en fin de contrat. C'est par exemple le cas de la star du FC Barcelone, Lionel Messi. Pour Radio France Internationale, Thomas de Saint-Léger.
C'est la règle quand un joueur arrive à moins de 6 mois de la fin de son contrat, il peut commencer à discuter avec une autre écurie en vue d'un transfert gratuit à l'été. Le cas de figure se produit régulièrement, mais jamais Lionel Messi ne s'était retrouvé dans cette situation. Joueur d'un seul club, le FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or n'a pas encore quitté le nid catalan, mais ses dernières déclarations laissent peu d'espoir aux supporters Blaugrana. À 33 ans, lassé par les guerres internes, les résultats décevants et peut-être pris aussi d'une envie d'ailleurs, Messi semble enfin décidé à couper le cordon, une aubaine incroyable pour ses courtisans, riches forcément, car il faudra quand même payer l'énorme salaire de la puce argentine. Dans ces conditions, les regards se tournent vers le PSG où il pourrait reformer son duo avec Neymar et Manchester City pour d'autres retrouvailles potentielles avec Pep Guardiola, à moins que dans un énième contre-pied, le génial numéro 10 ne décide de rejoindre le championnat nord-américain, la MLS. De la même manière, l'autre grande Espagne, le Real Madrid, pourrait perdre un joueur emblématique. Son capitaine Sergio Ramos fait lui aussi partie d'une liste impressionnante de joueurs en fin de contrat, liste dans laquelle apparaissent également David Alaba, André Di Maria ou Memphis Depay, pour ne citer qu'eux.
Et pour finir ce bulletin d'information, un point rapide maintenant sur la météo du jour en Australie. 33 degrés du soleil à Perth, soleil aussi à Adélaïde où il fait 29 degrés. Quelques averses et peut-être aussi de l'orage à Melbourne aujourd'hui avec le thermomètre qui affiche 26 degrés. 25 degrés à Canberra où le temps est nuageux. Sydney toujours dans la grisaille et sous le crachin avec une température maximale aujourd'hui de 25 degrés. À Brisbane, temps humide et 29 degrés et jusqu'à 33 degrés à Darwin.
En janvier 1492, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon prennent possession de Grenade. Une messe catholique est célébrée dans la grande mosquée qui est transformée en cathédrale.
On a tous gardé en tête la date de 1492 comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. 1492 est pour l'Espagne des rois catholiques celle du triomphe de la croix, d'une triple bénédiction, la chute de Grenade le 2 janvier qui achève la reconquista sur Los Moros, l'exil d'au moins 120 000 juifs après le décret du 31 mars et en effet la découverte de l'Amérique par Colomb. La prise de Grenade a mis fin à un siège de plusieurs années autour de la ville. Et le 2 janvier 1492, elle a été prise par les forces d'Aragon et de Castille, donc les forces d'Isabelle et Ferdinand. Et donc il fallait non seulement savourer la victoire, mais aussi être ferme pour montrer que le pays se recristianisait.
La confusion du monde, c'est le titre du troisième roman de Christian Carizet. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions du Cherche Midi. Alors c'est un événement qui a durablement changé la face de notre monde. Janvier 1492, les Espagnols prennent Grenade, dernière enclave musulmane d'Andalousie. En quoi cet instant est-il, selon vous, un point de bascule ?
Alors, c'est un point de bascule parce que ça marque la fin de la présence des arabo-musulmans ou des berbères musulmans dans cette péninsule ibérique. Et à nouveau, la Méditerranée va être la frontière naturelle.
Et parmi les fidèles aussi, il y a Torquemada qui prépare déjà le décret d'expulsion des juifs d'Andalousie et de toute la région. Il va mener l'inquisition contre les juifs. On est au cœur d'un nœud religieux.
Absolument. Lui, son obsession, c'est la question juive. Plus exactement, c'est la question des conversos, c'est-à-dire ces juifs qui sont convertis en règle générale à la fin du siècle précédent ou au début du 15e siècle. Et Torquemada soupçonne ces conversos de ne pas avoir coupé tous les liens avec leur communauté d'origine. Et l'idée de Torquemada, c'est que la reconquête va permettre l'unité politique du royaume. Mais que cette unité politique, elle n'a de sens que si elle est accompagnée d'une unité religieuse. Et pour réaliser cette unité religieuse, il faut régler le problème des conversos. Et le règlement de cette question passe à ses yeux par la conversion des Juifs ou leur expulsion.
Pendant les premiers siècles, la culture juive était respectée, il était toléré. Il y a à partir seulement d'un certain moment où il y a les berbères qui arrivent, où il y a une retour à une culture arabe plus rigide. Et là, les juifs, beaucoup d'eux, doivent partir aussi. Mais c'est une époque dans laquelle, même avec les mozarabes, donc c'est avec les chrétiens qui étaient là, ils étaient respectés, ils faisaient partie de la ville. C'est l'histoire des différents règnes qui ont vécu en Grenade jusqu'à 1502. Et donc, on construit avec ça toute cette histoire de cette région, la relation avec le monde chrétien de l'Espagne, les conflits entre les mêmes règnes, pour arriver donc vers la fin de 1492.
Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon d'un côté, Torquemada de l'autre, Christophe Colomb. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces trois histoires convergent les unes vers les autres et toutes les trois, elles vont trouver leur point d'aboutissement cette année 1492. Vous avez rappelé tout à l'heure que au début de l'année, c'est la chute de Grenade. Le décret d'expulsion, il est signé fin mars, rendu public fin avril. Ouais. Les Juifs ont 3 mois pour se convertir ou quitter la péninsule ibérique. Et la date limite, c'est le 2 août au soir et le 3 août au matin, Christophe Colomb largue les amarres pour ceux qu'ils croient être les Indes et ce qui sera l'Amérique.
fresh one.
Et on vient d'écouter le titre Copine, interprété par Aya Nakamura. Place maintenant au cinéma. On va retrouver pour cela Christophe Mallet. Il a interviewé Édouard Bergeon, c'est le réalisateur du film Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui dans le podcast l'émission en français sur Radio SBS, Édouard Bergeron. On va parler de son film. Bonjour.
Oh là là, ça commence mal.
Pourquoi ?
Bah, il y a une petite erreur sur mon nom là.
J'ai dit quoi ? J'ai dit Bergeron ?
Ah non, il y avait un R en trop, mais comme beaucoup, mais c'est pas grave.
Ah d'accord. Alors comment on dit ? Parce que moi, on m'a donné Bergeron et j'ai cru comprendre Bergeron.
Bah non. C'est... Vous n'êtes pas Christophe Maillet ?
Non, c'est vrai.
Voilà, je suis Édouard Bergeron.
Ok, bah bon, bonjour.
Bonjour.
J'ai eu la chance de voir votre film hier. J'ai vraiment super apprécié. Et parlez-nous un petit peu de ce film, parce que c'est vraiment un film très proche de votre cœur, bien entendu.
Ouais, c'est dur d'attaquer, parce qu'on peut, parler de beaucoup, beaucoup de choses, puisque c'était pas prévu que je fasse du cinéma. J'ai grandi dans une ferme vers Poitiers, dans la Vienne, et mes grands-parents étaient agriculteurs des deux côtés, mon père, et puis il était peut-être question que je reprenne la ferme, moi, si les événements avaient fait que tout s'était bien passé. En 99, j'ai perdu mon père qui a mis fin à ses jours, comme malheureusement beaucoup trop d'agriculteurs en France. Et il a fallu être là pour ma mère, pour continuer. Et puis, je crois que je me suis éloigné du métier d'agriculteur en voulant raconter des histoires, en devenant journaliste, comme vous d'abord. Je suis monté à Paris en 2005. Pour bosser au JT de France 2, puis après faire du magazine, du documentaire. Et en 2010-2011, je fais un documentaire qui s'appelle « Les fils de la terre », qui raconte l'histoire d'un producteur de lait qui est endetté, qui va pas bien, physiquement, psychologiquement. Et en parallèle, je raconte déjà l'histoire de ma famille en sortant les photos de famille et en racontant la difficulté d'être agriculteur aujourd'hui. Ce documentaire fait parler de lui, est plusieurs fois diffusé sur France 2, devient une pièce de théâtre qu'on adapte à Avignon au festival, et un jour ce documentaire tombe sur le bureau d'un producteur de cinéma incroyable, Christophe Rossignon, qui est lui-même fils et frère d'agriculteur, qui est bouleversé par ce documentaire et qui prend son téléphone et qui m'appelle. Et c'est assez dingue parce que on déjeune ensemble, et à la fin du déjeuner on se dit qu'ensemble on fera un film ensemble, un film de cinéma. Et moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai jamais dirigé de comédien. Et Christophe Rossignon, qui a produit La Haine, L'Amour est dans le Pré, et plein d'autres super beaux films, les films de Brisé, me dit qu'on va partir ensemble. Et puis, on commence à écrire avec un scénariste, et puis un deuxième. Et puis Guillaume Canet rentre dans l'aventure de la même manière que Christophe Rossignon, en tombant sur le documentaire en rediff sur France 2, bouleversé par le documentaire.
Il y a une petite anecdote là-dessus. Je crois que Guillaume Canet avait vu le documentaire et avait contacté justement votre producteur, qui sans le savoir.
Voilà. Ils tournaient ensemble, parce que Guillaume et Christophe Rossignon ont fait pas mal de films ensemble. Joyeux Noël, Jeux d'enfants quand ils tournent avec Marion Cotillard, L'affaire Farwell, et là ils tournent Mon Garçon ensemble. Et à ce moment-là, Guillaume est à l'hôtel pendant le tournage et tombe sur mon documentaire en rediff à minuit et demi. Et il est tellement bouleversé, Guillaume, qu'il souhaite en faire un film, mais comme réalisateur lui-même. Et il en parle le lendemain matin à mon producteur qui est là, et forcément un lien fort à l'agriculture, Christophe Rossignon. Donc il dit, il faut que tu produises ce film qui est incroyable. Et il se marre, mon producteur, et il lui dit, Guillaume, le film dont tu parles, je vais le produire, le scénario est écrit et c'est le réalisateur du documentaire qui va le réaliser. Oh,
d'accord.
Alors là, il est un peu déçu, hein, mais un Guillaume Canet, il a un instinct qui revient vite. Qui va jouer le rôle principal ? À toi, Guillaume.
Voilà. Alors, parlons un petit peu du film. Guillaume, c'est Pierre, dans le film. Et Pierre, c'est votre père, Christian.
C'est inspiré de mon père parce que parce que la réalité est toujours pire que la fiction. Donc j'ai mis quelques ingrédients de la réalité qui sont déjà assez importants.
À le savoir, c'est dur parce que le film est dur quand même.
Il est beau parce que c'est un hommage à la terre, à la campagne, à la vie, moi que j'ai vécu à la ferme, les balades à vélo, aller en boîte en mobylette, la liberté. Faire une piscine en bottes de paille l'été au milieu de la ferme et faire venir les copains et les copines, les premiers émois, les premiers amours, tout en conduisant le tracteur, la moissonneuse. Enfin, on sent qu'il y a de l'amour et de la vie hein, dans ce film. Mais oui, il y a une partie plus sombre, plus difficile.
Alors justement, la vie d'agriculteur, parce que ce que vous montrez bien dans ce film, c'est la différence entre l'agriculture d'avant et puis le passage à l'agriculture moderne et le fait qu'en fait, avec Rufus... Donc votre grand-père dans l'histoire, ça colle pas vraiment avec votre père parce que c'est deux mondes différents.
Oui et non, parce qu'en fait, s'est lancé dans l'agriculture intensive, ce sont justement les gars de la génération de mon grand-père. Dans les 30 Glorieuses, on se lance dans la mécanisation, la chimie, parce que la société le demande. Les consommateurs veulent manger pas cher. Les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Il y a des surfaces qui augmentent. Et moi, c'est mon grand-père hein, qui se lance à fond dans la mécanisation, la chimie. Sauf qu'à l'époque, on gagne de l'argent. Et après, au tournant des années 90, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une mondialisation terrible. Et les agriculteurs ne font pas la facture de ce qu'ils produisent. Ça, faut bien s'en rendre compte. Et ils sont soumis aux lois du marché. Ils ont le droit de produire à perte. C'est quand même la seule profession où on a le droit de produire à perte. Et en plus, on produit et on travaille entre le ciel et la terre. Donc, on est hyper vulnérable. Face à la météo, en ce moment, les éleveurs essuient la troisième année de suite une sécheresse où l'été, il n'y a plus rien dans les champs pour les animaux, par exemple. Ça, faut s'en rendre compte. On s'en rend compte en ville qu'il fait chaud, mais à la campagne, c'est compliqué. Ouais, donc, il n'y a pas de jugement dans mon film. C'était mieux dans la génération de mon grand-père ou de mon père. C'est qu'à un moment donné, oui, les deux générations ne se comprennent plus. Voilà. Et ça, c'est ce que je montre. La transmission, le grand-père, le père, le fils. Le fils qui est incarné par Anthony Bajon, qui est exceptionnel aussi.
Il y a aussi techniquement la ferme en elle-même. Pour vous, ça a été important d'avoir un lieu qui soit vrai, réel, parce que j'ai cru voir un documentaire où il y avait la famille qui habitait, qui est propriétaire de cette ferme, qui a eu d'ailleurs un private viewing à la fin, parce qu'ils vous ont accueilli pendant toute la durée du film.
Ah oui, c'était important. Le décor était primordial. On trouve cette ferme 6 semaines seulement avant le début du tournage. Tour de force, hein. On avait trouvé une ferme un peu par défaut et celle-ci, c'est le régisseur qui la trouve. C'est la ferme du scénario. Elle est belle de partout, on peut la filmer de tous les côtés. Elle est en haut d'une colline, elle domine une vallée. On est en Mayenne, dans les Alpes Mancelles. C'est pas là où j'ai grandi, mais ça reste l'ouest de la France. Et cette ferme est vide. Les agriculteurs qui l'ont viennent de la racheter pour leur installer leur fiche. Eux, ils ont leur propre ferme à 5 km. Donc, c'est pratique, en fait. Il n'y a pas de bruit ou d'activité de ferme comme la traite des vaches le matin. Elle est vide. La maison est vide. C'est un décor. Et il y a même un bâtiment au milieu de cette ferme qui est une ancienne stabulation qui est moitié, avec le toit moitié écroulé. Et sans dévoiler le film, il y a un incendie dans le film et on cherchait un endroit où faire brûler ce bâtiment et on leur a demandé si on pouvait le remonter ce bâtiment pour le faire brûler. Il disait allez-y, moi je voulais l'enlever, donc le supprimer. Donc tout était réuni en fait pour que ce film se tourne ici. Et puis on a tourné en été et en hiver sur deux périodes, en 40 jours, 2 fois 20 jours. On a eu tous les temps, même de la neige l'hiver. Donc franchement, je pense qu'il y avait mon père bossait depuis là-haut et nous a fait ce qu'il fallait quand il fallait.
Absolument, ouais. La relation Rufus Guillaume Canet à l'écran, elle est splendide. Ils se connaissaient avant. Comment s'est passé?
Oui, ils se connaissaient, ils se respectaient, mais après, au gré de la vie, ils n'avaient peut-être pas forcément travaillé ensemble. Mais là, ça a été des moments très forts, des joutes de comédiens. On le voit quand on est au petit déjeuner, qu'ils mangent tous les deux ensemble. C'est une séquence une scène qui fait presque 2 minutes. J'ai voulu la filmer en un plan fixe, sans plan de coupe. Et ça les challenge, les comédiens. Il faut que ça soit juste, que tout sonne juste, dans le bon tempo, à la demi-seconde près. Et on a assisté à des scènes vraiment fortes. Et je trouve que ça marchait bien, quoi. Et Rufus, en un regard, il dit tout, quoi. Cette scène à table avec le poulet, là, où son père, son fils vient, Guillaume vient lui demander de l'amour, en fait, de l'aide. Et lui, il lui parle de la guerre et du vieux temps, quoi. C'est là qu'on comprend que les deux générations ne se comprennent plus, pour le coup.
Ouais, et puis à l'endroit aussi où il s'engueule à propos de l'argent, où il y a les poulets. C'est une scène qui est incroyable aussi, ça.
Ouais, on tourne dans un bâtiment de plus de 10 000 poulets pendant deux jours. Il fait 30-35 degrés. C'est pas simple. Ouais. C'est une scène qui fait 3 minutes 30.
Même au niveau olfactif.
Ouais, ça sent l'ammoniaque. Mais après, ils étaient calmes, les poulets. On est resté sur un bout du bâtiment et ça fait un décor. Je vous laisse décor. C'est assez beau, en fait, comme décor. Et voilà, c'est ça la réalité aussi.
Ouais, sur le thème en lui-même, on parle un peu du suicide. Dans cette interview, il y a entre 200 et 300 agriculteurs qui se...
Un par jour.
Ouais, c'est un par jour, voilà. C'est incroyable comme chiffre.
Ouais, c'est trop. C'est impressionnant. Mais je suis hyper heureux qu'on ait pu mettre sur les écrans de France ce thème, ce tabou dont on parlait sûrement peu, un peu dans les médias, parce que moi j'en faisais des reportages, des documentaires régulièrement depuis 10 ans, certains autres aussi. Mais là, ce film a poussé les lignes politiques aussi. On est allé montrer ce film à l'Élysée avec le président Macron, où j'ai amené les agriculteurs, où on a travaillé. On l'a emmené au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et une mission d'un député, Olivier Damaisin, a été déclenchée suite au film sur la prévention et le mal-être des agriculteurs. Donc là, il doit remettre son rapport à Jean Castex bientôt, et moi j'ai suivi aussi ça. Qui démontre, et ce rapport, j'espère qu'il va faire bouger les choses. Il met les pieds dans le plat sur le manque d'humanité dans des rouages agricoles entre les organisations, sur des trucs qui marchent pas. Et puis les agriculteurs se sont reconnus et se sont sentis fiers. Les ruraux sont allés voir ce film. Le film n'a pas marché à Paris, par exemple, enfin, très peu.
Ah, d'accord, c'était une de mes questions, en fait, savoir où ça avait le mieux marché.
2 millions d'entrées, 116 000 à Paris seulement. C'est incroyable, c'est un coefficient 20 en fait. C'est une entrée à Paris, 20 en région. Ça montre une rupture entre les centres et la ruralité. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne, une plateforme digitale, là, il y a 7 mois, qui s'appelle cultivons-nous.tv. C'est une sorte de Netflix de la terre où je mets des documentaires sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Où justement, dans cette boîte à outils, j'espère qu'on viendra chercher de quoi comprendre mieux la ruralité et l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette rupture-là qui fait beaucoup de mal, en tout cas, aux agriculteurs. Ils se sentent assez déconsidérés. On parle d'agribashing. Et en fait, aujourd'hui, on entend que dans les médias, on entend le bio, chimie, pesticides. On est dans l'écologie punitive. Et c'est pas comme ça qu'on va résoudre et réparer ces liens. Mais faut aimer nos agriculteurs. Faut comprendre ce qu'ils font. Moi, je pense que ça viendra par les gamins, hein, l'éducation alimentaire. Remettre de la terre dans les écoles, réapprendre à manger, d'où vient le produit, en circuit court, de saison. Le bio veut rien dire, en fait. Faut juste revenir à quelque chose de plus humain dans un système mondialisé.
C'est vrai que manger des avocats bio du chi,
je sais pas en quoi ils sont bio. Hein. Ou faire venir des fleurs d'Australie pour pomper la nappe et après voir qu'il y a des incendies de fou, moi je comprends pas en fait.
C'est clair. En tout cas, c'est un très beau film. Je le dis en vrai. Hein, je sais pas parce que vous êtes là.
Merci.
Donc c'est un vrai. Mon bol d'air, je veux dire, une ouverture d'esprit, surtout quand on est en Australie, qu'on est français et qu'on entend parler bien sûr de ces problèmes, mais on est peut-être beaucoup moins exposé à ça. Ça donne vraiment une ouverture d'esprit vers ce film, c'est super. Il démarre en Australie cette semaine, donc c'est vraiment une opportunité de voir justement ce qui se passe en France et en Europe.
Et partout dans le monde, parce que toute l'agriculture mondiale est sponsorisée, en fait. La japonaise, l'américaine, encore plus qu'en France. Aujourd'hui, on aide l'agriculture pour que les consommateurs mangent moins cher. Donc peut-être que tous, il faut qu'on fasse tous des petits efforts pour, à un moment donné, manger ce qu'on produit plus localement.
Voilà. Olivier Bergeon, merci.
Édouard Bergeon. Donc, voilà.
Je l'ai fait exprès.
C'est bien.
Édouard Bergeon, merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On arrive maintenant dans la dernière partie de notre émission. Il est 13h47 et on va parler encore un petit peu de cinéma. Cette fois, on va s'intéresser au film Incendie. Il a été réalisé par le Québécois Denis Villeneuve et c'est notre spécialiste maison, Laurent Enclair, qui nous parle de ce long métrage que vous pouvez retrouver sur SBS On Demand. SBS Radio.
On rejoint maintenant Laurent Auclair pour sa chronique cinéma où il nous parle d'un film disponible sur SBS On Demand. Bonjour Laurent.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, et vous?
Très très bien. Oui, alors aujourd'hui on va parler d'un film qui a vraiment fait l'événement en 2010. quand il a été réalisé. C'est un film québécois.
Oui, je suis très contente d'ailleurs que vous ayez choisi ce film-là. C'est un de mes films que j'aime beaucoup, un film de Denis Villeneuve.
Oui, c'est vraiment le film qui l'a révélé au monde entier, puisque depuis, il est devenu un réalisateur international. Il a fait des grands succès américains. Donc les Australiens le connaissent bien maintenant, puisqu'il a réalisé des films comme Prisoners ou Sicario, ou Arrival ou Blade Runner 2049 qu'il a fait l'année dernière. Donc il est vraiment maintenant mondialement connu, mais son coup d'éclat, et je pense, enfin moi personnellement, ça reste quand même mon film préféré qu'il a réalisé, c'est Incendie, donc qu'il a réalisé en 2010 et qui est disponible sur SBS On Demand. Incendie, c'est un film qui est un petit peu difficile parfois, parce qu'il touche des thèmes très très forts, et il a vraiment une mise en scène qui met ses personnages dans des positions pas faciles, et je trouve que les acteurs qu'il a pris s'en sortent très très bien. L'histoire en deux mots, c'est celle de deux jumeaux donc qui vivent à Montréal, Jeanne et Simon, et à la mort de leur mère, ils reçoivent de la part du notaire deux lettres, une à remettre à leur père et l'autre à remettre à leur frère. Le seul souci, c'est qu'ils sont tous les deux persuadés que leur père est mort et ils ne connaissent pas l'existence d'un frère. Donc, ils se retrouvent tous les deux bouleversés, avec forcément des secrets dans le passé de leur mère qu'ils vont devoir découvrir. Et ils ont tous les deux une approche très, très différente. Simon rejette complètement cette idée-là, donc il ne veut rien avoir à faire avec ces lettres-là, il ne veut pas retrouver ces personnes, il n'a pas envie que son monde change. Jeanne, par contre, elle veut savoir, et donc elle part sur les traces du passé de sa mère au Moyen-Orient, et elle va tenter de percer le mystère et de découvrir si effectivement elle a un autre frère et si son père peut être vivant. Et donc là commence pour les deux personnages une introspection assez forte, et puis par des flashbacks qui sont alors je trouve très très bien rythmés. Je pense que c'est un film exemplaire sur l'utilisation du flashback. On voit la vie de leur mère, donc qui est jouée par Lubna Azabal, qui joue le personnage de Nawal, et on retrace toute sa vie et on découvre au fur et à mesure tous les secrets et tous les événements assez terribles qui ont jalonné sa vie et qui l'ont fait effectivement fuir le Moyen-Orient pour venir finalement s'installer au Canada.
C'est assez intéressant, je trouve, la réaction assez différente du frère et de la sœur, qui ont une réaction complètement opposée à la situation devant laquelle ils sont mis par leur mère.
Oui, je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est vrai qu'on comprend tous les deux, on comprend la réaction des deux, et je trouve que c'est une très belle mise en abîme du réalisateur. De partager le spectateur, de partager la vision du spectateur entre ces deux extrêmes, de Jeanne qui veut absolument savoir et de Simon qui rejette absolument la nouveauté et le changement dans sa vie, parce que forcément, découvrir un père qu'on ne connaît pas et un frère qu'on ne connaît pas, ça bouleverse forcément la vie de n'importe qui. Et je trouve qu'il joue très très bien sur à la fois ce déni de l'un et sur le besoin de l'autre de savoir et de découvrir et aussi de respecter la mémoire de leur mère, parce que c'est un petit peu ça la promesse de départ, c'est que justement leur mère ne s'est pas trouvée digne à la fin de sa vie et donc leur demande de réparer ses erreurs et de finir les promesses qu'elle avait faites des années auparavant auprès de ces personnages du père et du frère. Et donc il y a vraiment toute cette introspection sur la tradition familiale, sur bien sûr sur les secrets de famille, mais sur sur les racines, sur ce que l'histoire de nos parents peut dire de notre propre personnalité. Je trouve que vraiment ce mélange du passé et du présent qui est extrêmement bien maîtrisé par Denis Villeneuve nous donne l'occasion aussi, alors à travers forcément des événements qui sont assez terribles pour la vie de ces trois personnages, mais aussi de nous en tant que spectateurs nous replonger un petit peu dans on a à peu près tous des secrets de famille, des choses qui ne se disent pas, et donc de se replonger un petit peu dans ces questions-là et de se dire qu'effectivement il n'est pas facile de juger les gens par ce qu'ils ont fait dans le passé.
L'actrice qui joue la mère est vraiment incroyable dans ce rôle-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oui, je trouve que vraiment, alors c'est pas une actrice moi que je connais. Je ne sais pas si elle est très très connue au Québec, mais donc Lubna Azabal ici, je trouve qu'elle est vraiment d'une force. D'abord parce que ce qui lui arrive, c'est pas facile. Hein, c'est vraiment elle a à affronter des choix tout au long de sa vie et des épreuves qui sont parfois assez atroces. Et je trouve que justement l'actrice arrive à nous faire vivre toute la force de son personnage. Elle n'abandonne jamais. C'est vraiment une mère courage. Elle est vraiment tournée vers sa famille. Son propre bien-être parfois est vraiment laissé de côté. Et son interprétation est vraiment époustouflante. On croit à son personnage du début à la fin. Et vraiment, moi, elle m'a beaucoup touché dans cette évolution d'une femme, et on comprend tous ses choix, et elle nous fait comprendre par son interprétation pourquoi il a fallu qu'elle en passe par là et pourquoi il a fallu que même après sa mort elle laisse ses lettres à ses enfants, ce qui au départ est pas forcément facile à appréhender, parce que on se dit pourquoi une mère voudrait perturber autant la vie des deux enfants qu'elle a, et en leur dévoilant des secrets qu'ils n'ont pas demandé à connaître. Donc au début, on est un petit peu appréhensif vers son personnage, et dès qu'on commence à découvrir l'histoire qui se cache derrière, on est happé et on veut vraiment savoir ce qui lui est arrivé, et on va vraiment jusqu'au bout avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
Pour les gens qui ont vu le dernier Blade Runner, évidemment, ce film a rien à voir, mais j'ai l'impression qu'on retrouve déjà, on voit déjà le style de Denis Villeneuve visuellement. C'est un film qui est vraiment impressionnant aussi, qui est très beau. Il y a des scènes magnifiques vraiment dans ce film-là.
Oui, et je trouve que bon, c'est quelque chose qu'il a développé dans tous ses films. Moi, sans doute le second film que je préfère de lui, c'est Arrival, qui avait aussi beaucoup marqué il y a 2-3 ans. Et effectivement, il a une esthétique qui fonctionne parfaitement. Et puis, ce qui est aussi bien dans ce film, c'est qu'on passe du Canada au Moyen-Orient avec des paysages qui sont complètement différents, des paysages arides. On est vraiment transporté. Il nous emmène vraiment dans ce voyage avec une très belle carte visuelle que je trouve qu'effectivement il maîtrise, et il maîtrise de mieux en mieux avec tous les succès énormes qu'il fait à travers le monde.
Vous le recommandez donc, à voir Incendie.
Oui, c'est un film à voir absolument. C'est vraiment d'abord parce que je trouve qu'on ne voit pas assez de films canadiens. Donc ça, c'est toujours bon de s'ouvrir à d'autres cultures, et la culture canadienne, je trouve, a beaucoup à nous apprendre, en particulier sur les films et sur la société canadienne qu'on ignore parfois un petit peu, ou qu'on moque quand on voit certains films américains ou certains films français se moquer gentiment de la tendresse canadienne. Voilà, c'est toujours mieux de voir les choses de l'intérieur et de s'ouvrir à cette culture. Mais c'est surtout un film qui est international, parce que justement on est entre le Canada et le Moyen-Orient, on est sur des problèmes vraiment humains, donc il n'y a pas besoin de vraiment connaître en profondeur toute une culture pour s'attacher à ces personnages. Et vraiment la force de l'interprétation, et puis vraiment la preuve, alors pour le coup avec ce qu'il a fait après, la preuve que dès le départ, c'était pratiquement son premier film, dès le départ Denis Villeneuve était un excellent et un grand réalisateur.
Merci beaucoup Laurent, vous me donnez envie de réécouter le film Incendie, donc qui est disponible sur SBS On Demand. On se reparle la semaine prochaine?
Très bien, pas de problème, et très très bonne semaine à tous.
Merci, voici.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.
SBS en français, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau du groupe Bagarre qui s'intitule Kabylifornie. Notre prochain rendez-vous, eh bien, c'est demain à 13h pour une nouvelle émission en direct. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écouter quand vous voulez en podcast. Pour cela, rendez-vous sur notre site ou bien abonnez-vous à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming préférée. Passez une excellente journée et à très bientôt.
Oui, je sais, un jour je serai comme toi, je ferai partie de ta vie. Oui, je sais, un jour je serai comme toi, je ferai.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.